Bonsoir, comment allez-vous? Ça y est, j'ai trouvé, ça fait des années que je cherche. On m'a dit, il n'existe pas, mais moi j'avais une petite voix qui me disait, si, il existe. Alors j'ai cherché, et ça y est, c'était un joli moment. Hein. Non, c'est pas le souterrain qui va, peut-être, du grand château d'Amboise de François Ier au Clos Lucé. C'est pas non plus le lac secret qui serait sous l'Opéra de Paris. J'ai trouvé le passage qui va directement du rayon cuisine à la sortie chez Ikea, sans passer par les couettes, les rideaux, les lampes, les tapis de bain, les canapés, les bougies. Bon, alors, pour être tout à fait franche, c'est pas moi qui ai trouvé, c'est un gars qui me l'a indiqué. À mon avis, il devait être en conflit avec l'entreprise, sinon il n'aurait pas pris ce risque. Alors je vous donne le truc, c'est fou. Quand vous êtes donc au rayon cuisine, entre les verres et les plateaux, les petits plateaux carrés, eh bien là, il y a une porte, une vraie porte, mais on ne la voit pas. C'est très bien fait. On a l'impression que les verres touchent les plateaux, mais en fait, non. Quand on s'approche tout à fait, il y a un passage, pas très large. Et là, vous arrivez directement aux plantes vertes qui donnent sur la sortie. C'est dingue. Évidemment, il y a un danger. Dès que quelqu'un qui n'est pas du magasin par là, il reçoit une alerte. Un individu a essayé de franchir la voie 9 3 quarts. C'est pour ça qu'il faut y aller très vite, en se courbant, pour passer sous les caméras. Sinon, vous tombez sur un cerbère qui vous renvoie à la literie. Oh, je voyais ces pauvres familles harassées qui arrivaient du grand tour. J'avais envie de leur dire « Je suis passée entre les verres et les plateaux ». Mais je ne l'ai pas fait, j'ai honte. C'est pour ça que je vous le dis maintenant.
Bonjour, je m'appelle Augustin, j'ai 14 ans et je voudrais savoir, est-ce que la cape d'invisibilité de Harry Potter sera possible un jour? Merci.
Ça alors, quelle question! Est-ce que la cape d'invisibilité d'Harry Potter sera possible un jour? Julien Bobrov, vous qui êtes physicien, vous enseignez à Orsay, c'est-à-dire à l'Université de Paris-Sud, et vous avez écrit « Mon grand mécano quantique » édité chez Flammarion. Que pensez-vous de cette question?
En fait, Augustin, la cape d'Harry Potter existe déjà. On l'a déjà fabriquée en laboratoire, mais alors tu vas voir, elle est un peu minable. Donc il faut que j'explique ce que c'est que cette cape d'invisibilité. Ça veut dire quoi être invisible déjà? Ça veut juste dire que quelqu'un d'autre ne nous voit pas. Ça veut dire que la lumière, qui normalement devrait taper sur nous et aller ensuite dans l'œil de l'autre personne, a choisi un trajet pour nous éviter. Donc si j'arrive à faire que la lumière m'évite, je suis invisible. C'est la définition de l'invisibilité, finalement. Alors, il y a plein d'autres façons d'être invisible, des petites astuces de magicien, par exemple. Mais pour le physicien, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'il faut que j'arrive à dévier la lumière. Alors, ce que les physiciens ont fait, c'est qu'ils ont pris d'abord un petit matériau, c'est une petite montagne. Voilà, ils se sont dit, on va essayer de rendre invisible une petite montagne. D'accord ? Alors, la montagne, elle est vraiment ridiculement petite. Hein, elle fait l'épaisseur d'un cheveu, mais acceptez une seconde que ça soit une petite montagne. Et dessus, ils ont posé leur cape. Alors, comment ils ont fabriqué leur cape? Ils ont utilisé ce qu'on appelle des métamatériaux. L'astuce, c'est de mettre plein de tout petits composants électriques en or sur la cape. Donc, la cape, elle est recouverte d'une espèce de brodure électrique. Alors, pourquoi électrique? C'est parce qu'en fait, la lumière, c'est l'électricité. La lumière, c'est une onde électrique. Et donc, ce que se sont dit les physiciens, c'est, si c'est une onde électrique, il suffit que j'utilise des circuits électriques pour la dévier. Et l'astuce, c'est que, chaque circuit électrique, je peux lui dire de plus ou moins dévier la lumière. Donc, ils ont mis plein de petits circuits électriques. Et ils ont dit, en gros, juste en choisissant la taille des circuits, qu'en haut de la montagne, on la dévie beaucoup, puis en bas de la montagne, on la dévie un peu moins, et puis au niveau plat, on la dévie plus du tout. Donc la lumière, elle arrive, elle voit ces petits circuits électriques, elle est affectée par les circuits électriques, ils ont juste réglé les circuits électriques pour que le haut de la montagne, on ait l'impression qu'il soit au même niveau que le bas de la montagne, donc qu'il n'y ait plus de montagne. Alors ils ont fait leur dispositif, puis après ils ont fait une image avec un microscope, et soudain, leur montagne avait disparu. Donc ils avaient fabriqué une cape d'Harry Potter. Alors là, il faut tout de suite que je t'arrête parce qu'on se dit « Waouh, je la veux, où est-ce que je peux l'acheter ? C'est fabuleux, même si c'est petit. » En fait, elle a des défauts, cette cape. Elle en a d'abord, c'est qu'on ne sait la faire pour l'instant que sur des petites échelles. Donc c'est une toute petite cape d'Harry Potter pour fourmis, on va dire. C'est vraiment fourmis plutôt qu'Harry Potter. Et puis, il faut pas bouger. Parce que si on bouge, ça marche plus, vu qu'ils ont conçu la cape exprès pour la montagne. Donc déjà, il faut qu'Harry Potter ne bouge plus du tout. On peut se dire « Bon, c'est pas grave, il bouge pas et ça va déjà être pas mal. » Et puis, il y a un autre problème qu'on oublie souvent, c'est l'ombre. C'est que quand on éclaire un objet, y a une ombre derrière. Et elle, on a du mal à la cacher. Donc à mon avis, un des problèmes qu'on aurait avec cette cape d'Harry Potter, c'est qu'on serait invisible, mais qu'on verrait notre ombre. C'est et donc, il faudrait trouver des façons un peu particulières de nous éclairer. Mais les chercheurs travaillent beaucoup actuellement sur ces métamatériaux pour gouverner et faire ce qu'ils veulent avec la lumière.
C'est extraordinaire, hein? Et vous pouvez réécouter cette réponse. Elle mérite d'être réécoutée parce qu'elle est extrêmement bien expliquée. Vraiment simplement, mais c'est quand même quelque chose d'un peu compliqué. Julien Bobrov est physicien, vous l'avez deviné. Son dernier livre, La quantique autrement, Garantie sans équation est édité chez Flammarion. Vous connaissez le principe des petits bateaux, des enfants posent des questions et nous, nous trouvons des spécialistes pour leur répondre. Ce soir, vous avez demandé à Benoît Grison si les animaux peuvent comprendre notre langage. Vous avez également demandé si dans les grottes, et les peintures pouvaient se conserver et comment. Enfin, comment surtout les peintures pouvaient se conserver. Et vous avez demandé au pédopsychiatre Michael Larard comment on peut rendre un terroriste gentil. Et voici pour Muriel Gilbert une question de rentrée.
Je m'appelle Emma et j'aimerais vraiment savoir s'il existe des règles de grammaire qui sont inutiles. Au revoir.
Bonsoir Emma. Existe-t-il des règles de grammaire qui sont inutiles? On a chacun une petite réponse dans notre tête. Nous attendons la vôtre, Muriel Gilbert, auteur du livre édité à la librairie Vuibert, Au bonheur des fautes. Confession d'une dompteuse de mots. C'est votre métier, dompteuse des mots, puisque vous êtes correctrice.
Ah, j'ai l'impression qu'il y en a qu'elle a envie de ne pas avoir à apprendre, Emma. Alors, c'est vrai que l'écriture du français est compliquée, pleine de règles et puis pleine d'exceptions. Il suffit pas d'apprendre les règles, il faut aussi connaître les exceptions. Et je vais peut-être te faire rêver, Emma, parce que je vais te dire qu'il y a eu une époque où chacun écrivait comme il le voulait. Finalement, ça ne fait pas tant rêver que ça, parce que c'était parfois difficile à comprendre à force que chacun écrive à sa façon. C'est pour ça qu'un jour, on a décidé qu'il valait mieux qu'on écrive tous de la même manière. Et cette époque-là, c'était au XVIIe siècle.
Pour éviter la confusion, donc,
en fait. C'est ça, pour qu'on se comprenne. Ouais. Pour qu'on se comprenne mieux, en fait. Hein. Et donc, Richelieu, à l'époque du roi Louis XIII, a créé l'Académie française et lui a demandé de doter le pays d'une grammaire et puis d'un dictionnaire, c'est-à-dire de règles. Mais alors, même les adultes ont du mal à respecter certaines règles très compliquées. La règle la plus compliquée en français, à mon avis, c'est celle de l'accord du participe passé. Les phrases que j'ai mangées et ou mangées et es.
Je dirais es placé avant.
Et oui, exact. Nous nous sommes lavés et es, mais nous nous sommes lavés et les mains. À l'école, on apprend que le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Les enfants sont bien rentrés et es.
D'accord.
Mais d'accord. Jusqu'ici, tout va bien. C'est plus difficile avec les verbes pronominaux, les verbes qui ont un pronom. Comme « je me suis lavé ». Leur participe passé ne s'accorde pas quand le verbe est suivi d'un complément d'objet direct. Ils se sont lavés, quoi ? Les mains. Le complément est après, donc on n'accorde pas.
Ah bon ? Ouais.
Mais si on dit « les mains, ils se les sont lavés », là on accorde.
Ah, comme les Espagnols.
Exactement.
Mais d'où est la capessa ?
Et alors là où on commence vraiment, vraiment à transpirer, c'est quand apparaît l'auxiliaire « avoir ». La théorie, c'est encore simple. Le participe passé employé avec l'auxiliaire « avoir » s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct quand il est placé avant le verbe. Dans le cas contraire, il reste invariable. On dit comme ça « la stupide phrase que j'ai écrite ». Mais j'ai écrit la stupide phrase. Et alors après ça, le problème, c'est qu'il y a encore des tas d'exceptions, avec par exemple les verbes pronominaux qui ne peuvent jamais avoir de complément d'objet direct, comme par exemple « se succéder ». C'est pour cette raison que même avec l'auxiliaire « être », on n'accorde jamais le participe passé de « se succéder ». On dit « les années se sont succédées » et. Et donc Becherel, là, qui est un des livres de référence de la grammaire française, il dit même que la règle de l'accord du participe passé est l'une des plus artificielles de la langue française. Donc je crois qu'il n'est pas loin de dire que c'est inutile, hein, Emma. Enfin, en tout cas, on avait constaté ça. Et alors, si je peux vous donner une petite anecdote, c'est qu'on peut dater avec précision l'introduction de cette fichue règle du participe passé. C'est Clément Marot qui l'a formulée en 1538. Clément Marot, c'était le poète officiel de François Ier. Et il a découvert cette règle en Italie, il a trouvé ça fort chic et il a décidé de l'importer en France. Donc depuis, cet accord du participe passé avec le complément d'objet direct s'il est placé avant, on est obligé de l'appliquer. Quelqu'un qui est fâché lui aussi avec cette règle, c'est Voltaire, le célèbre Voltaire. Il a dit « Clément Marot a rapporté deux choses d'Italie, la vérole et l'accord du participe passé. Je pense que c'est le deuxième qui a fait le plus de ravages. » Alors tu vois, la règle de l'accord du participe passé, Emma, il y a des gens très savants qui trouvent qu'elle est trop compliquée. Mais tant qu'on n'a pas décidé de la changer, bah autant la prendre comme un petit jeu difficile et rigolo.
Le livre de Muriel Gilbert, encore plus de bonbons sur la langue, Le français n'a pas fini de vous surprendre, est sorti en livre de poche. La plupart d'entre vous n'étaient pas nés quand Aretha Franklin a enregistré cette chanson en 1968.
Les petits bateaux sur France Inter.
Le week-end prochain, c'est-à-dire les 18 et 19 septembre, vous le savez probablement déjà, ces deux journées seront consacrées au patrimoine. Alors, on s'est dit, de quoi allons-nous parler au petit bateau pour parler de ce patrimoine? Oh non, le château de Versailles, on connaît bien. Enfin, nous avons passé plusieurs bâtiments ou monuments intéressants en revue et nous sommes tombés dans une grotte.
Bonjour, je m'appelle Iris, j'ai 10 ans et j'aimerais savoir comment les peintures dans les grottes qui ont été faites il y a des millions d'années peuvent être si bien conservées aujourd'hui. Merci de me répondre, au revoir.
C'est nous qui te remercions Iris pour cette question que je crois nous nous posons tous. Quand je vois la couverture du livre que vous avez dirigé, Carole Fritz, L'art de la préhistoire, édité chez Citadel et Masno, il y a bien évidemment des peintures, on peut dire comme ça, ce sont des peintures ?
Oui, alors la conservation, Iris, c'est un miracle, on va dire. Parce que pour que ces peintures, ces dessins, que ça soit dans les grottes ou dans des abris de plein air, c'est-à-dire dans des creux dans la roche, plus ou moins profonds, où on va trouver par exemple en Australie les dessins, il faut qu'il y ait des conditions climatiques très particulières. Et ça, on ne sait pas le contrôler. Moi, je connais une grotte, par exemple, en Ariège, qui s'appelle la grotte du Tuc de Doubert. Et au fond de cette grotte, il faut traverser une rivière, monter un premier réseau, après monter 10 mètres, aller au fond de la grotte, à plus de 400 mètres de l'entrée.
Ah, dis donc, c'est sportif votre métier, on croit que c'est que intellectuel, mais
c'est
sportif.
Oui, puis c'était sportif aussi pour les préhistoriques, parce qu'ils ont pris les mêmes chemins que nous.
Ah, c'est vrai.
Au fond de cette grotte, qu'est-ce qu'il y a ? Deux grandes sculptures de bisons en argile. Et ils font chacun plus de 30 cm de long. Et bien là, c'est miraculeux, parce que si de l'eau avait coulé sur cette argile, ces bisons n'existeraient plus aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui fait que ça se conserve ? Généralement, c'est que la grotte se ferme et qu'on obtienne un environnement général, on va dire tamponné, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de bouleversement à l'intérieur de la grotte important pour l'aération, c'est-à-dire des courants d'air, ou alors des écoulements d'eau. Si sur les parois vous avez des écoulements d'eau, ça va enlever les dessins ou ça va créer une forte épaisseur de calcite et on verra plus les dessins.
Ah, donc il y a des dessins qu'ils ont probablement cachés là en ce moment.
En fait, dans une grotte en Bourgogne, on a en fait décapé, enlevé la calcite pour pouvoir voir les dessins, par exemple, vous voyez. Ouais. Après, les grottes, c'est très franco-espagnol pour le paléolithique. Après, les dessins, on les trouve plutôt dans des abris sous roche. Et donc là, ce sont des abris, donc des creux dans le calcaire ou dans d'autres matériaux. Et là, c'est l'environnement climatique qui va être très important. Par exemple, en Algérie, Michel Barbaza, qui travaille sur les dessins, il a beaucoup de mal d'avoir les dessins parce qu'ils sont érodés par le vent. Là aussi, il y a des sels qui viennent de se poser sur les dessins. Alors, on a toutes des techniques maintenant pour faire ressortir ces dessins, des traitements d'image. Mais la conservation, pour moi, c'est un vrai miracle. Et notre difficulté à nous, humains du 21e siècle, c'est quand on découvre ces dessins, les conserver pour les humains qui viendront après. Et ça, en France, c'est le rôle du ministère de la Culture. Et c'est vrai que ça pose énormément de problèmes, puisque pour en France, en tous les cas, les grottes, chaque grotte est différente. Et on ne peut pas appliquer un système de conservation à Lascaux, le même à Niaud ou à Chauvet, parce que ce n'est pas les mêmes grottes, il n'y a pas les mêmes environnements au-dessus. L'environnement au-dessus implique quelque chose en dessous, comme toujours. Et ça, c'est très très compliqué, c'est un vrai métier.
Donc, concours de circonstances jusqu'à maintenant, et maintenant, on organise la conservation.
C'est exactement ça.
Donc, ça dépend évidemment de l'environnement météorologique, mais aussi de ce qu'il y a sur les murs.
De ce qu'il y a sur les murs, météorologique, le changement au-dessus de la grotte. Par exemple, si vous avez de la forêt, ben, faut laisser la forêt. Faut pas la couper, sinon vous allez changer les circulations d'eau. C'est vraiment des problématiques qui sont extrêmement complexes. Et il est vrai qu'avec le réchauffement climatique, on voit arriver des problèmes. Puisqu'en fait, une grotte, c'est 12 degrés à 98% d'humidité. Et ça, c'est en train de changer. Et c'est vrai que ça va, dans un futur proche, poser des problèmes aux conservateurs des grottes ornées en France. Et dans d'autres pays, en Australie, en Algérie, etc.
Carole Fritz est spécialiste de l'art pariétal. Alors voici quelques grottes qui vont participer aux Journées du patrimoine les 18 et 19 septembre. La grotte préhistorique de la Crouza dans l'Aude, la grotte du Lazaret dans les Alpes-Maritimes, la grotte du Placard qui est en Charente, ou bien la grotte, les grottes de Gargas qui sont dans les Hautes-Pyrénées, ou encore les grottes d'Azé qui sont en Saône-et-Loire. Voilà un joli programme si vous êtes dans une de ces régions. Benoît Grison, vous l'avez déjà entendu au Petit Bateau, il est docteur en sciences cognitives, biologiste et sociologue des sciences.
Bonjour, je m'appelle Ariane, j'ai 10 ans et demi et je voudrais savoir si les animaux peuvent comprendre notre langage. Merci, au revoir.
Bonsoir Ariane, quelle question Benoît Grison ?
C'est une question très vaste, mais il y a beaucoup d'animaux qui peuvent, quand ils vivent avec nous, comprendre certains éléments de notre langage. On a montré que le chien comprend plusieurs dizaines de mots de son maître humain. On a montré que le chien est capable aussi de comprendre quand il y a de la colère ou de la douceur qui passe dans une même phrase. Il fait la différence entre la même phrase dite avec une volonté de réprimande et une volonté au contraire de douceur. Et puis, il y a des chercheurs qui ont établi une véritable communication avec des chimpanzés, alors chimpanzés ordinaires ou bonobos, en utilisant soit des ordinateurs, soit des sortes de symboles avant la lettre en plastique. Donc il y a quand même des possibilités pour nous, êtres humains, de communiquer avec les autres espèces. C'est pas toujours une illusion, mais il faut comprendre la façon dont ils communiquent eux-mêmes, pour faire la moitié du chemin et trouver un moyen de communication intermédiaire.
Mais les chiens, par exemple, ils communiquent eux-mêmes sans prononcer de mots.
Donc... Bien sûr, il y a déjà un langage du corps, comme chez beaucoup de mammifères, tous les mammifères, chez le chien. Mais il y a aussi, sans doute, un certain nombre d'expressions, de vocalisations qui sont aussi associées à un sens. On le voit bien aussi chez son cousin le loup, au chien. Et puis, il est surtout capable, ça c'est extraordinaire, parce que son cerveau a été transformé par la domestication, de comprendre certains mots humains. Alors qu'avant, on pensait qu'il réagissait bêtement ou par conditionnement aux ordres dits avec des mots humains.
On le voit bien avec les chiens guides.
Bien sûr.
Qui comprennent un tas de mots. Et alors, ce sont forcément des mots prononcés, sonores, entendus avec les oreilles. Il n'y a pas d'intuition là-dedans.
Il semble que non, parce qu'il y a des chercheurs de l'Institut Max Planck en Allemagne qui ont fait des expériences très rigoureuses en laboratoire et qui montrent que pour les chiens les plus doués, ils sont vraiment capables d'aller jusqu'à plusieurs dizaines de mots dont ils comprennent le sens, quel que soit le contexte. Et c'est vrai que vous donniez un exemple qui est excellent, celui des chiens guides. Les dresseurs des chiens guides, qui eux-mêmes sont des dresseurs experts, arrivent avec ces chiens à maximiser l'utilisation des ordres verbaux, comme on dit, avec notre langage. Après, les chiens ont leur propre langage, ils nous ont pas attendus pour l'avoir, mais ils sont capables de comprendre une partie d'une autre. Et ça, on a montré qu'on a transformé leur cerveau en les sélectionnant génétiquement, quand on les a transformés de loups en chiens.
Il faut lire ce livre extraordinaire sur un chien extraordinaire, qui d'ailleurs est une chienne. Ce livre s'appelle Chaser, le chien qui comprend 1000 mots, de Monsieur Paillet ou Pilet, je ne sais pas comment on dit. En tout cas, c'est édité chez Lattès. Quant à Benoît Grison, eh bien, il a écrit Les portes de la perception animale, édité chez Delachaux et Niellet.
J'ai parcouru le monde, j'ai traversé la France de fond en comble, chaque station essence. J'ai traversé la vie comme une ambulance, jamais trop en retard, jamais trop en avance. J'ai parcouru le globe sans la moindre carte, dans la cour de l'école, j'ai lâché quelques tartes. À présent c'est l'automne et plus rien ne m'étonne, elle ne m'a pas mené seulement jusqu'à Rome. Ma route, passer les frontières, style derviche, tourneur, contrebandier naguère, demande à ta sœur. J'ai passé le checkpoint, tel un épouvantail, en frappant à ta porte, je montais sur les détails. J'ai traversé l'Europe jusqu'à plus jamais soif, enfant de mon époque, sans passion et sans taf. À présent c'est l'hiver, et plus rien ne m'étonne, ni pleurer des rivières, ni les débris de carbone. Je roule. Thank you.
beaucoup les villes, j'ai traversé le globe, jamais le moins civil, pas toujours le plus sobre. Je rêvais de presqu'île, dans la cour de l'immeuble, lassé d'être immobile et de faire partie des meubles. J'ai traversé le siècle, tel l'enfant d'un autre, jamais le plus sélect, pas avare de mes fautes. Hier c'est le printemps, demain c'est le tombeau, bienheureux ceux qui croient que leur survivent les mots. J'ai survolé l'azur, j'ai survolé les mers, contrebandier c'est sûr, vas-y demande à ta mère. En regardant l'océan comme un vieillard mourant, mais je levais mon verre à tous les éléments. La route, la route.
Ma route, c'était Benjamin Biolay, extrait de la playlist de France Inter. France Inter, où vous écoutez Les Petits Bateaux. Le numéro de notre répondeur pour poser des questions, les enfants, enfants petits et grands, est le 01 56 40 43 57.
Bonjour, je suis Philomène, j'ai 4 ans et demi, j'aimerais bien savoir comment on rend un terroriste gentil.
Comment on rend un terroriste gentil, Philomène, 4 ans et demi? À qui allons-nous proposer cette question? Puisque tu as 4 ans et demi, Philomène, peut-être un pédopsychiatre, Michael Larard. Comment? Surtout que le terroriste, il a été petit. Comment peut-on rendre un terroriste gentil?
Alors, c'est une question qui est très puissante et triste aussi dans la bouche d'un enfant aujourd'hui. Pour répondre profondément, il faut donner les clés du psychisme, du terrorisme. D'abord, les enfants ont un bon sens. Ils nous rappellent que le terroriste n'est pas gentil, il est méchant. Et on a souvent affaire à des intellectualisations, des adultes, qui font du terroriste un malheureux, désœuvré, radicalisé, qui serait à peine finalement responsable de son parcours. Ce soi-disant dépressif radicalisé deviendrait alors un terroriste. Or, sur le plan clinique, c'est complètement faux. Et c'est bon de le rappeler. Le terroriste, lui, il déchaîne son sadisme et sa destructivité. Avec un prétexte, un djihad, une aubaine en vérité, pour pouvoir détruire à bon compte et en se sentant quelqu'un de fort, de puissant, d'important.
De juste.
Voilà. Alors que le patient dépressif, et il y en a beaucoup des gens qui font des syndromes dépressifs, ils peuvent se suicider, c'est vrai, ou penser à se suicider, mais ils sont d'abord désolés du mal qu'ils vont faire aux gens qu'ils laissent, et puis ils ne tuent pas les autres. Ils sont dans un processus d'auto-dévalorisation et ils s'attaquent eux-mêmes. Donc, c'est fondamentalement différent. Et le terroriste a une dimension perverse, sadique et destructrice très forte. Pour le soigner, je crains qu'aujourd'hui, on n'ait pas les armes. Et au fond, même si on le déradicalisait, ça ne suffirait pas à le rendre gentil, parce que la radicalisation est presque encore une fois une aubaine pour lui. Les parcours de ces terroristes, on le voit, et la rapidité avec laquelle ils sont radicalisés montrent leur appétence pour la violence.
Ils étaient mûrs.
Ils avaient un terrain prédisposé à être violents, explosifs et à porter sur l'autre la faute de toute leur souffrance. Donc, même si on déradicalise, eh bien, peut-être qu'ils retourneront à des larcins, là où ils ont été trouvés au moment où on les a radicalisés.
Vous dites qu'ils ont un terrain, alors on reparle de l'inné et de l'acquis, ils ont quand même aussi un parcours, une histoire qui
absolument.
Les a
rendus. Quand je dis un terrain, c'est vrai, vous avez raison de me faire préciser, quand je dis un terrain, je pense à un terrain infantile, je ne pense pas à de l'inné. Je pense à des relations familiales toxiques, chaotiques, destructrices, parce que évidemment, un bébé qui naît va être soumis de façon forte aux relations avec ses parents, et c'est surtout ça qui va construire les grandes lignes de son psychisme. Le sadisme, la destructivité, on en a tous, mais quand on est bien aimé et qu'on a de bonnes relations, on les contrôle. Celui qui n'a pas cette chance-là, il va pas les contrôler. On charge souvent la société de les avoir désœuvrés et d'être à l'origine de leurs méfaits, et je pense que c'est bien mal connaître la construction du psychisme. La construction du psychisme, elle se fait d'abord à la maison. C'est d'abord à la maison que les choses ont été hautement toxiques.
Cette réponse de Michael Larard nous fait prendre conscience de l'importance de l'harmonie. Thich Nhat Hanh est un maître bouddhiste qui est venu du Vietnam après y avoir vécu les atrocités de la guerre. Il a apporté en Occident son expérience de moine, mais surtout sa bonté et son époustouflante compréhension des autres. Il a eu la bonne idée d'écrire tout un tas de livres, vous pouvez tous les lire, ils sont tous bons et ils sont en format poche. Mais pour cette rentrée 2021, Thich Nhat Hanh propose deux livres pour enfants. Le premier, 10 exercices pour bouger et méditer. La méditation en pleine conscience pour les enfants. Il nous montre comment être attentif à tout ce qui nous entoure, comment être présent, comment transformer la souffrance, comment aider les autres et tout ça en bougeant. Le second livre s'appelle « Les petits cailloux du bonheur, la méditation au creux de la main ». Là, il nous apprend à être solide comme la montagne, calme comme l'eau d'un lac immobile, qui reflète alors la réalité. Parce que quand nous nous laissons dominer par la confusion et la colère, nous ne voyons plus la réalité et nous commettons des erreurs. Ces deux petits livres pour enfants édités chez Pocket Jeunesse en apprennent aussi beaucoup aux adultes. Podcaster cette émission. L'équipe des Petits Bateaux, Stéphane Combe, Julien Dumont, Marjorie Devoucaux, Noël Bréham, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à 19h30 et nous vous conseillons d'écouter Le Masque et la Plume de Jérôme Garcin après le journal.